Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous remercie sincèrement pour être encore ici après trois conférences. Je crois que votre patience peut être définie héroïque. Vous avez toute mon admiration, ma gratitude. Et pour la dernière conférence, et le sujet, comme vous voyez, est la renaissance de la prophétie dans le Risorgimento et la résistance antifasciste. Nous avons ensemble étudié la naissance d'un langage prophétique de rédemption politique avec, dans la Renaissance italienne, avec Savonarola et l'humanisme. Nous avons étudié le langage prophétique de Niccolò Machiavel et nous avons étudié le déclin de la prophétie dans les siècles de la servitude italienne, c'est-à-dire les 17e et le 18e siècle. Aujourd'hui, on va discuter la renaissance de la prophétie dans l'expérience du Risorgimento et de la résistance antifasciste. Puisque Benedetto Croce, vous le connaissez maintenant, puisque Benedetto Croce a publié dans son histoire, l'accent n'est pas là, je m'excuse, il a publié l'histoire d'Europe dans le 19e siècle, en 1932, le moment où les régimes fascistes étaient plus forts, 10 ans après les commencements du régime fasciste en 1922. Puisque Croce a publié l'histoire d'Europe, nous savons très bien qu'un nouveau sentiment religieux a soutenu le Risorgimento italien. Ça veut dire l'époque qui a commencé en 1821, c'est terminé à peu près 1860, oui. Et c'est l'expérience à travers laquelle l'Italie a gagné, a atteint son unité nationale et l'indépendance. Croce a soutenu que l'expérience du Risorgimento italien a été en quelque mesure inspirée par une religion de la liberté, un nouveau sentiment religieux. Il a décrit la religion de la liberté comme religione della libertà, comme une conception de la réalité accompagnée d'une éthique qui y conformerait. Pourtant, avec très peu d'exceptions, les historiens n'ont pas remarqué jusqu'à maintenant qu'au début du Risorgimento est réapparu aussi une renaissance remarquable, très forte, du langage prophétique. Un langage prophétique qui avait la force de mobiliser une partie du peuple à lutter pour la libération et l'unité nationale. C'était une renaissance qui s'est produite dans un contexte intellectuel européen. Ce n'était pas seulement une expérience. La renaissance du langage prophétique n'est pas seulement une expérience italienne au début du 19e siècle. C'était une expérience européenne et en particulier une expérience française, marquée par l'apparence de plusieurs voix qui annonçaient qu'un grand changement politique et moral radical dans l'histoire de l'humanité était imminent. Comme l'a remarqué un professeur, à mon avis, très important, le professeur Paul Benichoux, dans le livre, son livre Le Temple des prophètes, il a parfaitement raison. Les premières années du 19e siècle ont été vraiment le temps des prophètes. Les idées prophétiques sortant de la France ont eu un effet important sur les intellectuels et les chefs politiques du Risorgimento italien. Giuseppe Garibaldi, pour citer l'exemple le plus importante. Gardez une copie du nouveau christianisme de Saint-Simon sur sa table de nuit. Mazzini lisait et discutait les œuvres de Félicité Lamennais, de Georges Sand, de Pierre Leroux. Cavour connaissait bien la culture française du XIXe siècle. Il avait une grande admiration pour Théodore Jouffroy. Pourtant, la littérature prophétique contenant un message de rédemption apparut en Italie avant la Révolution française. Avant la Révolution française. Et d'une certaine mesure, indépendamment du contexte européen. Oh, maintenant, si je pose la question, qui ont été les écrivains qui ont commencé à inaugurer une nouvelle époque du langage prophétique? Je suis sûr que vous connaissez la réponse. Des poètes, parce que la poésie et la prophétie, nous l'avons déjà remarqué, sont très fortement liées. Ce n'est pas surprenant que les premières voix prophétiques furent les voix des poètes. Leur source d'inspiration principale était Dante, et dans une moindre mesure Machiavel. Leur message était une exhortation aux Italiens au combat pour se libérer de la domination étrangère et de la tyrannie. Le premier écrit qui ont visiblement marqué la renaissance dans le langage prophétique de rédemption politique, parce que c'est de ça que je parle, langage prophétique de rédemption politique, je ne parle pas des prophéties, le langage prophétique en général. Les premiers écrits qui nous font voir la renaissance dans le langage prophétique sont les poèmes et les textes en prose de Vittorio Alfieri. Comme l'avait fait Dante avant lui, Alfieri décrit son sentiment prophétique comme impulsion divine, c'est-à-dire la voix d'un Dieu féroce et inconnu, un Dio feroce e ignoto, explique Alfieri. C'est cette voix de Dieu, d'un Dieu féroce et inconnu qui m'a poussé depuis ma jeunesse à combattre la tyrannie et la corruption, à dénoncer l'esprit servile et paresseux des Italiens. Ça, c'est clair. Ça, c'est un document vraiment éloquent de l'inspiration prophétique d'Alfieri. Le texte qui synthétise le mieux les idées prophétiques d'Alfieri s'appelle Exhortation, comme Machiavel. Exhortation à libérer l'Italie des barbares. Exhortation à libérer l'Italie des barbari. Dans ce texte, Alfieri annonce que l'Italie deviendra une république libre et puissante. Sa prophétie est fondée sur l'argument, le même argument de Machiavel, c'est-à-dire il n'y a aucune raison, écrit Alfieri, hors d'une lâcheté ignoble, de croire que ce qui a été accompli par les hommes du passé ne pourrait pas être accompli par les hommes du présent. L'Italie peut alors redevenir libre et puissante si les Italiens sont capables de retrouver la force morale. Un autre poète qui a fait part d'un message prophétique est Ugo Foscolo. D'après Giuseppe Garibaldi, les derniers vers de sa poésie, « Les sépulcres », « Sépulcri », ont eu un énorme effet sur les Italiens. Ils ont encouragé dans les Italiens à retrouver un amour sincère pour leur patrie. Comme son maître intellectuel Alfieri, Foscolo a dénoncé la dégénération politique et morale de l'Italie. Comme Alfieri, Foscolo invoque Dante comme le prophète qui s'élève à la contemplation de l'ordre universel et qui est capable d'interpréter la providence divine et qui veut révéler à ses compatriotes sur la terre, le futur. Mais les poètes qui composa les vers les plus puissants, ceux qui ont le plus profondément exhorté les Italiens à se mobiliser pour leur rédemption nationale, fut Alessandro Manzoni. Dans son hymne Pentecôte 1812-1815, donc nous sommes au début du Risorgimento. Le Risorgimento n'a pas commencé. Nous sommes dans la préparation intellectuelle et morale. Et là, on trouve les voies prophétiques que je suis en train de discuter avec vous. Manzoni évoque l'image de l'Église du Dieu vivant, la Chiesa del Dio vivente, qui existe dans les monts pour conforter tous ceux qui sont en peine. L'Esprit divin est descendu sur l'Église, écrit Manzoni, pour partager les signes de peuple qu'il a placés sur la colline, qu'il colloqua sur le monte, et pour inspirer un nouvel espoir chez le peuple opprimé qui est à la recherche de la justice. Le langage prophétique de Manzoni est vraiment puissant. Il parle, il dit que les cieux, i cieli, proclament de nouvelles libertés et l'événement d'une humanité moralement renouvelée, genti nove, capable d'exploits glorieux et vertueux, libre de la peur, immune aux flatteries. Lorsque la domination de l'étranger deviendra insoutenable, que le peuple aura perdu tout espoir, écrit Manzoni, Dieu montrera alors son bras tout-puissant et luttera du côté de ceux qui combattent avec valeur. En 1815, enthousiasmé par les proclames de Rimini de Gioacchino Murat, Manzoni exhortait les Italiens à se joindre dans la bataille contre les Autrichiens. Et Manzoni, il a composé un poème inachevé dans lequel il évoque le Dieu de l'Exode, c'est-à-dire la narration biblique de la rédemption du peuple israélite, des Israélites, de l'esclavage en Égypte à la terre promise. Comme il l'a fait avec les Hébreux, Dieu enverra, écrit Manzoni, un rédempteur, les mêmes mots de Machiavel, un rédempteur, un nouveau Moïse qui sera inspiré par son indignation sacrée envers les oppresseurs de ses compatriotes et qui offrira aux opprimés la valeur dont ils ont besoin pour attendre l'indépendance. Dans son ode Mar 1821, Manzoni développe son langage prophétique autour de l'idée d'un Dieu qui entende et écoute l'invocation de peuples opprimés. Si la terre, sont les paroles de Manzoni, si la terre sur laquelle vous plaignez, vous Autrichiens, vous plaignez opprimés, pousse le corps de vos oppresseurs. Qui vous a dit que stérile, éternel sera le deuil du peuple italien? Qui vous a dit que Dieu, ce Dieu qui vous a entendu, sera sûr à nos plaintes? Le Dieu de Manzoni est ici le Dieu de l'Exode. C'est le Dieu rédempteur qui se montre contre les oppresseurs. Et encore, je cite des autres lignes de Manzoni. Oui, ce Dieu qui a fait encercler d'une vague vermeille les personnes cruelles qui chassaient l'Israël, ce Dieu qui a mis en maille dans la main vigoureuse de Jaël et guida son coup, ce Dieu qui n'a jamais dit « Allez, étalez vos talents, l'Italie est à vous ». Manzoni souligne l'universalité de son appel en dédiant le poème à un poète allemand, Theodor Körner, le poète soldat qui s'est battu et qui est mort pour l'indépendance de l'Allemagne dans la guerre contre Napoléon. Et Manzoni insiste sur le fait que les droits à l'indépendance de l'Italie existent seulement parce que tu, peuple, as droit à l'indépendance. Dans les poèmes de Manzoni, les valeurs chrétiennes purifient l'appel au combat, qui n'est plus relié à la haine et à l'arrogance nationale. Pour être réellement émancipatoire, la lutte ne peut pas avoir pour but de détruire l'oppresseur, mais doit avoir pour but d'établir un ordre juste en accord avec la volonté de Dieu. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas religieux, mais je suis une historienne. Et l'histoire est exactement l'histoire que je suis en train de découvrir. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Mais la voix prophétique la plus importante et la plus efficace du Risorgimento italien, vous le savez, Mazzini, Giuseppe Mazzini. À un très jeune âge, Mazzini choisit pour mission de sa vie d'inspirer chez ses compatriotes italiens une foi. Il voulait donner aux Italiens une foi, una fede. Il croyait que c'était le premier passage, la première condition pour la rédemption nationale, c'était de faire découvrir aux Italiens une nouvelle foi. Une foi qui leur donnerait la puissance morale nécessaire à attendre l'émancipation à la fois nationale, c'est-à-dire l'émancipation de la domination étrangère et l'émancipation politique, c'est-à-dire l'émancipation de la tyrannie. Sa conscience et Dieu étaient les seuls guides de Mazzini. Sa conscience et Dieu. Il s'est considéré comme un rédempteur, un nouveau Prométhée, qui avait volé à Dieu la lumière de l'émancipation. Mazzini interprétait sa mission politique comme un engagement complet et total à l'idée du devoir. Il était un prophète qui refusait de croire à l'espoir. Il était incapable de cultiver la joie de vivre. Son compagnon dans la vie était invariablement l'aduleur qui ressentait pour les conditions misérables de la patrie. Le prophète, pour Mazzini, devait être un héros imbu d'une force morale énorme qui lui permettait de continuer à se battre même quand ses compatriotes ne l'écoutaient pas et les ridiculisaient. Il savait bien que la tâche d'émanciper un peuple affaibli par des siècles de domination étrangère, d'oppression politique, et des corruptions religieuses allaient être une tâche éprouvante et ardue. Mais Mazzini, il croyait au pouvoir de la prophétie. Il faisait confiance que Dieu lui-même voulait l'émancipation de l'Italie et l'émancipation de tout le peuple. Il y a un universalisme très évident, Mazzini. L'émancipation de l'Italie pour émanciper tout le peuple. Sa foi prophétique en la victoire de la cause italienne, eut un impact immense, motivant des milliers d'Italiens à répondre à son appel pour commencer la longue marche vers la rédemption politique et morale. Qui était le modèle de Mazzini? Dante, encore une fois, Dante, toujours là. Les premiers écrits de Mazzini, le premier texte qu'il a écrit, 1826, il avait 21 ans, s'appelle « De l'amour de la patrie chez Dante »,« De l'amour patrie in Dante ». Et là, Mazzini, en parlant de Dante, il décrit l'amour de la patrie en tant qu'un amour immense, immune, aux préjugés est inspiré par les idées d'unité et de paix. Tandis que leurs compatriotes se lamentent et souffrent en silence, les prophètes qui possèdent cet amour pour la patrie prennent la défense de la nation. Les vrais prophètes, écrit Mazzini, partagent les besoins, les anxiétés, les espoirs de leurs compatriotes, mais ils ne partagent pas les vices de leurs compatriotes, ils ne partagent pas les faiblesses. Les paroles des prophètes ne naissent jamais de sentiments de colère irrationnels. Les paroles des prophètes naissent de l'indignation. Ils sont honnêtes avec leurs concitoyens, au point d'être désagréables. Ça, c'est attention. Les prophètes sont désagréables, parce qu'ils disent la vérité. S'ils sont des vrais prophètes, ils disent la vérité. Mais le peuple ne sont pas contents d'écouter la vérité à propos de leur vie. Et alors, les prophètes, ils dénoncent les fautes de leurs compatriotes. Les prophètes rappellent les patriotes à leur responsabilité. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, c'est dangereux. Les patriotes invitent à agir, pire que réprocher. Leurs reproches n'ont pas pour but d'humilier leurs concitoyens, ni de souligner leur supériorité morale. Les paroles des prophètes ont le but de soulever l'esprit du peuple avec lequel ils veulent, les prophètes veulent travailler et lutter. Les prophètes parlent pour inspirer dans le peuple les mêmes passions qu'ils ressentent eux-mêmes. Les prophètes comprennent que de travailler ensemble contre un oppresseur et contre la corruption n'est pas une tâche facile. Et cela nécessitera une passion pour la liberté partagée par tous. Mazzini savait très bien que les prophètes parlent souvent dans le vide. Ils parlent, personne n'écoute. Les vrais prophètes atteignent rarement la gloire et la renommée. La récompense est souvent l'exil. Mazzini a vécu toute sa vie en exil à Londres. La fondation du message prophétique de Mazzini fut sa croyance inébranlable que la religion, en tant que foi, peut donner au peuple la force. Pour lui, la foi est une force, parce que la foi, ça veut dire que tu crois dans des principes et tu veux vivre ta vie en obéissant à ton principe, à tes principes. La religion, pour Mazzini, est le principe par lequel les hommes sont capables de trouver de nouvelles formes politiques et sociales. La religion, pour Mazzini, est un principe qui les élève et les purifie de l'égoïsme et les rend capables de s'engager pour actualiser leurs idées morales. La religion est l'impulse vers l'harmonie entre la pensée et l'action. Sans religion, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais ni de rédemption, ni d'émancipation. Voilà pour vous un petit texte. L'homme est plus élevé encore que la terre qui le soutient. Il y vit sur la surface plutôt qu'au centre. Ses pieds touchent le sol, mais son front fait face aux cieux, comme s'il voulait s'y diriger. Là-haut, au plus haut, splendide dans le ciel clair, ou caché par mille nuages orageux, se trouve son étoile polaire. Du fin fond de son esprit, il aspire un futur qu'il ne peut qu'imaginer à présent, mais qui sera le but de toute action dans sa vie, le secret même de son être, la garantie du progrès. Et toute grande époque de l'humanité rendra cette aspiration plus intense encore et répandra une nouvelle lumière sur l'idée que l'homme se forme par rapport à son futur. Au niveau historique, je ne peux penser à aucune conquête de l'esprit humain, ni même à une seule étape importante à l'évolution de la société humaine qui n'a pas à son centre la foi religieuse. Il n'y a pas besoin de commenter, je crois. Je veux seulement ajouter que pour Mazzini, Mazzini a donné, nous a donné un message d'émancipation politique fondé sur l'idée que, j'ai anticipé, que pour régénérer une foi religieuse, qui peut régénérer une foi religieuse? Seulement des prophètes. C'est la considération centrale de Mazzini. Pour l'émancipation d'un peuple, tu as besoin d'une foi. Il faut que le peuple et la foi croient dans la possibilité de sa propre émancipation. Qui peut donner la foi? Seulement des prophètes. Mazzini avait confiance que le peuple assujetti, qui possédait une foi religieuse profonde, pouvait compter sur l'aide de Dieu. Mazzini l'a écrit plusieurs fois. La résurrection de l'Italie est la preuve de l'intervention divine, la rivelazione d'une assistenza divina al popolo d'Italia. Pour Mazzini, et ça c'est une idée que j'aimerais bien discuter un jour avec mes collègues philosophes politiques. Pour Mazzini, la démocratie n'est pas la représentation, ça ne veut pas dire simplement que le peuple est souverain. Pour Mazzini, la démocratie est le moyen par lequel on peut attendre l'éducation morale des citoyens. Donc, ce n'est pas un but, la démocratie, c'est un moyen. Le but, c'est l'éducation morale des citoyens. Mazzini considérait le peuple comme l'intermédiaire entre la révélation divine et l'histoire. Mazzini, pour conclure, pour terminer, a annoncé un message prophétique radicalement novateur dans lequel l'émancipation nationale et la liberté républicaine et la justice sociale et la régénération religieuse étaient des éléments inséparables d'une vision rédemptrice qui avait pour but d'inaugurer, avec l'aide et la protection de Dieu, une nouvelle époque dans l'histoire de l'humanité. Il faut que je souligne ça. Dans les messages prophétiques de Mazzini, vous trouvez l'émancipation nationale et la liberté républicaine, et la justice sociale et la régénération religieuse. Le langage prophétique de Mazzini a réussi à émouvoir seulement une minorité des Italiens. Nous le savons. Les historiens l'ont remarqué. Le Risorgimento italien a été une expérience de minorité. C'est vrai. C'est vrai. Mais, et pourquoi ça? Mon opinion est que, comme Machiavel l'avait déjà remarqué, les Italiens n'étaient pas un peuple religieux et donc ils n'étaient pas capables de comprendre un langage religieux comme le langage de Mazzini. Les Italiens n'étaient pas, ne sont pas comme les Anglais ou comme les Américains. Ils n'avaient pas la capacité de comprendre un langage religieux. Parce que le langage religieux, c'est un langage qui encourage, comme je l'ai déjà dit, le choix moral. Et l'Italien, les Italiens, la plus grande partie des Italiens, la majorité des Italiens, n'étaient pas prêts. Mais parmi les Italiens qui ont compris et embrassé le message de Mazzini, je dois au moins citer, maintenant l'image, c'est l'image juste, le pauvre Goffredo Mameli, le poète qui a écrit l'hymne national italien. Il mourut le 6 juillet 1849, à l'âge de 20 ans, se battant dans l'armée de Garibaldi pour défendre la République romaine. Mais il y a des autres. Par exemple, Ippolito Tonievo, l'auteur du grand roman du Risorgimento. Vous voyez quand il a vécu. Les Confessions d'une Italienne. Et c'est un texte-là vraiment tellement riche de références et des pages prophétiques, comme l'a bien montré professeur Valeria Giannetti, qui est ici, il futuro lume del remoto vero dans son livre, que je recommande. Mais il y a quelque chose de plus fascinant encore. Ça veut dire que les paroles des poètes prophétiques ont inspiré les Italiens, c'est vrai. Ou du moins, je l'ai dit, je le répète, certains Italiens. Les paroles des prophètes et des écrivains, des romanciers ont inspiré la détermination de se battre pour la liberté. Mais encore plus puissant que les paroles des poètes a été l'opéra, l'opéra de Giuseppe Verdi. En particulier Nabucco, représenté pour la première fois à Milan, la Scala, le 9 mars 1840. Nous sommes au centre du Risorgimento. Et là, Verdi a proposé Nabucco. Et regardant le libretto, Verdi comprit tout de suite que derrière les paroles va pensiero, il y avait la narration biblique du livre de l'Exode, c'est-à-dire la narration des esclaves qui sont devenus une nation à travers la longue marche qui était à la fois un voyage vers un endroit physique et une transformation antérieure. Pour devenir une nation, les Juifs ont d'abord dû s'émanciper de leur mentalité servile et acquérir la conscience de leur devoir en tant que peuple libre. Quand est-ce que les Juifs ont devenu un peuple dans la narration de l'Exode? Pas quand ils ont laissé l'Égypte, non, non, mais quand ils ont accepté le pacte avec Dieu, le pacte avec les droits et avec le devoir envers Dieu. Dans ces moments, quand librement, sans être forcés, ils ont accepté le pacte avec Dieu, ils sont devenus un peuple. Mais alors, dans l'opéra Nabucco, nous voyons les Israélites, les Juifs, ils implorent, ils prient Dieu de leur envoyer une nouvelle prophétie émancipatoire. Alors, vous savez que je suis tellement... Je n'ai pas de grandes capacités technologiques, mais je vais espérer dans un miracle avec l'aide. Alors, je vous propose d'écouter Nabucco avec les sous-titres en français. Et puis, j'examine avec vous les textes. Génial. Vous avez écouté les mots. C'est qui parle? C'est le peuple. Il invoque une prophétie parce qu'il parle à l'harpe d'or. L'harpe d'or, c'est le symbole des vents fatidiques, les prophètes. Et qu'est-ce qu'il invoque? Des mots capables de transformer la souffrance en courage. Oui, je peux retourner avec le PowerPoint si possible. Après ça, dans l'opéra de Verdi, c'est le prophète Zacharie qui répond. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis la voix du Seigneur. Je discerne dans l'obscurité du futur. Les chaînes ignobles seront brisées. Donc, cette prophétie a eu un impact énorme sur le Risorgimento italien, sur l'expérience d'émancipation nationale. Mais lorsque le roi Vittorio Emanuele II, deuxième, proclama la création du royaume d'Italie le 17 mars 1861, la prophétie de l'indépendance et de l'unité italienne avait finalement été atteinte, du moins en partie. Un état d'esprit pragmatique et désillusionné dominait la culture du post-Risorgimento. Dans ce nouveau contexte intellectuel et moral, les voix prophétiques perdaient leur force dans une bonne mesure. Les intellectuels et les élites de la politique italienne préféraient les faits, les sciences et le pouvoir aux prophéties et aux idées grandieuses. Une grande quantité de textes font preuve de cette nouvelle tendance. L'opinion qui avait soutenu la lutte pour l'indépendance italienne était que Dieu voulait une Italie libre et unifiée. Ça, c'était la conviction du Risorgimento. La devise des Italiens après 1861 était « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». C'était une belle différence, il faut le remarquer. Les prophètes, qui ont tout de même eu un impact important dans l'Italie après le Risorgimento, sont les prophètes qui ont proclamé des messages d'égalité radicale. Par exemple, le preuve Davide Lazzaretti. Il était le prophète de Montagnat. Son histoire est particulièrement pertinente, personne ne la connaît. Il était un patriote du Risorgimento qui fonda éventuellement un mouvement populaire dédié à la recherche de la liberté républicaine en Italie. Lazzaretti a maintes fois proclamé qu'il était inspiré par Dieu et que Dieu aurait soutenu ses efforts de créer un nouveau Zion sur la terre. Sur son drapeau, il avait écrit « Vive la République, règne de Dieu, vive la République, royaume de Dieu ». Plus prophétique que ça. Le 18 août de 1868, lorsque Lorenzetti cherchait de descendre du Mont Labre pour proclamer la nouvelle République, il fut tué par l'armée italienne. Les derniers mots qu'il prononça, c'était « Vive la République, royaume de Dieu !» Vive la République, royaume de Dieu. Vers le même moment, les théoriciens et les militants socialistes, c'est une autre histoire que je trouve vraiment fascinante, ont eu recours au langage prophétique pour exhorter les ouvriers et les paysans italiens à s'organiser et à se battre pour la rédemption, cette fois non plus nationale, mais sociale. Le langage de la prophétie passe de l'expérience d'émancipation nationale aux expériences d'émancipation sociale. Contrairement aux prophètes qui sont venus avant eux, les prophètes socialistes ont proclamé que leur vision du nouvel ordre social n'avait pas pour source l'inspiration divine. Les théoriciens socialistes ne parlaient pas d'inspiration divine. Ils disaient que leur vision d'émancipation sociale était la conséquence des connaissances scientifiques des lois de la vie sociale. Leur langage était « oui, il y aura, le socialisme y rendra comme effet des contradictions objectives de la société capitaliste ». Donc, la prophétie a pris un sens objectif, scientifique. En effet, le nom du langage des théories socialistes de la fin du XIXe siècle était « socialisme scientifique ». Mais il avait la prophétie, même dans le langage prophétique. Par exemple, M. Filippo Turati, le chef du Parti socialiste italien qui l'aidait, il a fondé en 1892, a proclamé que les principes socialistes allaient changer la face du monde et transformer des foules d'esclaves en individus libres. Il principio che muterà la faccia del mondo farà di mille mandre di schiavi un popolo di liberi. La rédemption du prolétariat sera la dernière phase de l'histoire pour Turati et accomplira la rédemption de toute humanité. Le pamphlet que les organisateurs socialistes ont utilisé pour persuader les ouvriers à se joindre au mouvement socialiste déclarait avec plus de conviction encore que le triomphe du socialisme était l'aboutissement nécessaire des tendances objectives de la société capitaliste. Par exemple, un guide pour les orateurs socialistes de la fin du XIXe siècle explique qu'il faut souligner que le processus de transformation socialiste est inévitable, fatale andare. D'avoir présenté l'avènement du socialisme, non comme la réalisation d'une prophétie, mais plutôt comme le résultat des forces sociales objectives, a fortement contribué à inculquer la foi socialiste dans le cœur des ouvriers et des paysans. Mais c'était pourtant une mode de propagande et d'éducation très vulnérable. Pourquoi ? Puisque la foi était, prétendument, basée dans des faits objectifs. Mais est-ce que les faits contradisaient obstinément les espoirs et les idéaux, la foi s'estompait et s'effaçait. Pourtant, quelques socialistes militants ont eu recours au langage prophétique, explicitement. Et donc, ils ont recours à un langage prophétique chrétien, pour enseigner aux paysans et aux ouvriers urbains la confiance et la possibilité d'une réforme sociale radicale qui émanciperait enfin le peuple de l'injustice et de l'oppression. Par exemple, M. Camillo Prampolini, l'apôtre socialiste de Reggio Emilia, il a développé l'idée que la rédemption socialiste était la prophétie chrétienne du royaume de Dieu sur la terre. Dans le style typique de la prophétie, Prampolini fait bien comprendre que Dieu veut que son royaume triomphe sur la terre. Cela ne veut pourtant pas dire que le royaume de Dieu se réalisera pour un décret de Dieu. Il faut le vouloir, il faut lutter pour ça. Je termine ma conférence avec un épilogue. Un épilogue qui, pour moi, est particulièrement importante, c'est-à-dire la présence que je crois d'avoir découvert, si je ne me trompe pas, d'une dimension prophétique dans la résistance antifasciste italienne. Vous savez que le régime fasciste a utilisé le langage prophétique. Très bien, très bien. Le but du fascisme, comme l'ont proclamé tous les idéologues du régime, était d'arriver à une réforme religieuse. Mussolini a toujours parlé de ça. Le fascisme est la réforme religieuse italienne. Parce que le fascisme peut donner aux Italiens ce qu'ils n'ont jamais eu, c'est-à-dire une foi. Une foi. Alors, une des méthodes importantes de cette stratégie idéologique était de faire appel au prophète du Risorgimento. pour qu'ils servent de précurseurs au régime de Mussolini. Giovanni Gentile, par exemple, il a toujours dit que Mazzini était le précurseur de Mussolini. Donc il y a eu l'effort idéologique du fascisme de présenter le Risorgimento comme l'anticipation du régime fasciste. Mais, et ça c'est l'aspect vraiment fascinant pour moi, pendant que les idéologues du fascisme recrutaient les prophètes du Risorgimento pour servir de précurseurs au régime de Mussolini, les intellectuels antifascistes les plus vigilants ont choisi un autre chemin. Ils ont découvert eux aussi un langage prophétique, mais radicalement opposé au langage prophétique des idéologues fascistes. Par exemple, le pauvre Piero Gobetti. Il était un des premiers martyrs antifascistes. Il repose ici, à Père-Lachaise. Il a été assassiné par les fascistes. A reconnu chez les prophètes de l'Ancien Testament les racines intellectuelles d'une religion de la liberté. Ce sont les mots de Gobetti. Une religion de la liberté, il écrit, capable d'inspirer un peuple de citoyens déterminés à lutter pour la liberté parce qu'ils le doivent et non parce qu'ils sont sûrs d'attendre la victoire. Lutter parce qu'il faut, parce que tu as le devoir, même s'il est presque impossible de vaincre. C'est une religion, la religion de la liberté, explique Gobetti, qui n'est plus source de confort pour les faibles, mais une certitude pour les plus forts. Cela exclut par principe les intérêts, les calculs et nécessite du fanatisme de la part des initiateurs et l'enthousiasme de la sincérité. Il avait compris qu'il fallait en Italie quelqu'un qui pouvait commencer la résistance, commencer à marcher. Et pour ça, tu as besoin d'une foi, d'une religion, de la liberté. Ça veut dire une religion qui te commande d'aimer la liberté avec la même intensité avec laquelle les vrais chrétiens aiment Christ. Mais l'effort le plus intellectuellement plus fort, intellectuellement et moralement plus imprécis, autour de cette nouvelle vision de rédemption sociale était celui de Carlo Rosselli, assassiné, lui aussi, 1937, ici, en France, sud de la France. Il venait de l'Espagne. Il a écrit un texte, Socialisme libéral, en 1929, quand il était détenu par la police fasciste sur l'île de Lipari. Il l'a publié ici en France, Libéré Valois, 1930. Dans la première partie de son œuvre, Rosselli remarque la prophétie sociale, déguisée comme langage scientifique, de laquelle je vous ai parlé tout à l'heure, avait été très efficace pendant les premières phases du mouvement, mais celle-ci était par la suite devenue un obstacle sérieux dans la lutte pour la justice sociale. Mais dans la deuxième partie de son essai, il donne l'esquisse d'une nouvelle vision prophétique. Nous sommes 1929, au milieu du régime fasciste. Un nouveau mouvement socialiste, proclame Rosselli, devrait tirer son inspiration, écoutez, du messianisme d'Israël. Incroyable, du messianisme d'Israël. Parce que le messianisme d'Israël enseigne une vision de la justice, un mythe de l'égalité et un tourment spirituel qui interdit toute indulgence. Il faut des personnes intransigeantes pour lutter contre un régime comme le régime fasciste. J'ai termine ici et avec qui Croce, encore une fois. Permettez-moi. Quand le régime fasciste était à son plus fort point, Benedetto Croce a publié des pages éloquentes pour expliquer que les prophètes sont nécessaires. Croce était réaliste, un réaliste politique. Il n'avait pas aucune sympathie pour l'utopisme politique. Mais comme il était réaliste, il comprenait le pouvoir de la prophétie. Les prophètes ne peuvent être artificiellement créés, écrit Croce. Il faut compter sur la providence qui continuera d'envoyer des prophètes sur la terre comme elle l'a fait depuis le début de temps. Quelques années plus tard, encore histoire d'Europe, Croce a insisté que même les régimes les plus despotiques et totalitaires ne sont pas capables d'éradiquer la religion de la liberté de la conscience humaine. C'est évident. Si tu as une religion de la liberté, ça veut dire que tu as une vision, tu as une conception qui vit dans ta conscience. Alors, même le plus totalitaire des régimes n'est pas capable d'éradiquer l'amour de la religion de la liberté, si elle est sincère. Et aujourd'hui, quand il discute, Croce, la question si la liberté connaîtra ce qu'on appelle le futur, dans une interview, dans un magazin, il discutait la possibilité, 1932, de voir encore la liberté en Europe. Mais Croce répond comme ça. Quand la question est posée si la liberté connaîtra ce qu'on appelle le futur, la réponse doit être que celle-ci connaîtra quelque chose de plus important encore. La liberté connaîtra l'éternité. Et aujourd'hui aussi, en dépit de la froideur et du mépris et de la dérision que la liberté rencontre, celle-ci continue à exister dans nos cœurs, dans nos attitudes morales et spirituelles. Elle opère salutairement à l'intérieur même de notre expérience historique. Sa confiance dans les pouvoirs de la religion de la liberté a inspiré à Croce une prophétie extraordinaire, 1932, la prophétie d'une Europe unifiée. Pendant, écrit Croce, à travers l'Europe, 1932, nous témoignons de la croissance d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle nationalité. Car, comme nous l'avons déjà remarqué, les nations ne sont pas des données naturelles, mais des états de conscience historiques et des formations historiques. De la même façon qu'il y a 70 ans, le Risorgimento, en Napolitaine, de l'ancien royaume, ou en Piedmontois, du royaume subalpin, des Vignes, italiens, sans contredire leur première identité nationale, mais justement en élevant celle-ci plus haut encore et la résolvant à travers cette nouvelle qualité. C'est ainsi que les Français et les Allemands et les Italiens et tout autre s'élèveront à l'état d'Européenne et leurs pensées seront dirigées vers l'Europe et leur cœur battront pour elles-mêmes, comme ils avaient auparavant battu pour leur petite patrie. Non pas oubliée, mais aimée plus profondément encore. Lire des mots comme ça aujourd'hui. Hein? Même alors la plus sombre, la prophétie a eu le pouvoir d'inspirer des visions lumineuses, comme la vision de Croce, qui ont soutenu l'espoir et la force morale pour continuer à croire dans la possibilité de la rédemption sociale. Mais il y a des autres leçons encore que nous pouvons tirer de l'histoire que je vous ai présentée. Nous apprenons, je crois, que la poésie est particulièrement apte à faire passer les prophéties de libération. Nous apprenons qu'il y a un lien profond entre la prophétie et la liberté républicaine. Nous apprenons que l'alliance entre la prophétie et la liberté républicaine qui a si profondément marqué l'histoire européenne et américaine a commencé en Florence avec Savonarola. Nous apprenons que Machiavel, le personnage principal de mon histoire, comprenait bien la force émancipatrice des prophètes. L'histoire italienne nous enseigne que la prophétie a le pouvoir de ressusciter la force morale, même dans un peuple humilié par siècles de domination étrangère, corrompu par une éducation religieuse qui a encouragé la docilité et l'esprit de soumission, que le langage prophétique a soutenu d'une manière efficace les idéaux socialistes. Mon histoire nous enseigne, enfin, qu'il faut des prophètes de la liberté pour lutter contre les prophètes du nationalisme. Ceci est une leçon particulièrement importante dont nous devons nous souvenir. Si nous voulons avoir la moindre chance de résister aux prophètes du nationalisme qui refont surface aujourd'hui dans les deux côtés de l'Atlantique. Merci. Merci.